Voilà, viens Seigneur Esprit Saint. Viens Seigneur Esprit Saint dans notre cœur. Viens nous renouveler par la puissance de ton souffle. Nous avons besoin de ton amour, de ta présence parmi nous ce soir pour nous donner la vie, pour venir opérer des œuvres magnifiques dans le Christ Jésus, notre Seigneur. De l'Évangile de Luc au chapitre 10, versets 29 à 37. Un docteur de la loi demanda à Jésus : Et qui donc est mon prochain ? Jésus répondit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits ? Le docteur de la loi répond « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit « Va et toi aussi fais de même. » Dans cet évangile de Luc, dans cette rencontre entre ce docteur de la loi, ce spécialiste de l'Écriture sainte, qui scrute la parole de Dieu, qui scrute la Bible pour comprendre la parole de Dieu, donc ce dialogue entre ce docteur de la loi et Jésus, qui est le Verbe éternel, qui a inspiré à lui-même cette parole, ce dialogue portait sur que faire pour avoir la vie éternelle. Effectivement, c'est la question essentielle. Que faire pour avoir la vie éternelle? Beaucoup de gens vivent sur cette terre sans se demander ce qui se passera après. Et puis, quand on se sent un petit peu partir, quand on se sent malade, on dit « Tiens, peut-être que je me pose des questions sur ce qui arrive après », mais beaucoup ne se posent pas encore cette question-là. Et puis, à une heure de sa mort, on demande à l'infirmière, l'infirmière me l'a dit une fois, « Mais qu'est-ce qui va m'arriver après ?» Et beaucoup de gens vivent leur vie sans s'interroger sur ce qui va se passer après leur mort. C'est quand même dommage. Donc on a le nez sur le guidon. Et donc cet homme de la loi a ce mérite de vraiment se poser la bonne question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est quand même la question fondamentale de notre vie. Je veux dire, qu'on ait raté sa vie sentimentale, son métier, tout le reste. Finalement, une fois qu'on est mort, ça a peu d'importance. Mais rater la vie éternelle, ça c'est pour l'éternité, donc ça c'est grave. Ce que nous avons à réussir dans cette vie, c'est notre entrée dans la vie éternelle. Le reste, c'est secondaire. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais ça reste quand même secondaire par rapport à cette question essentielle. Donc ce docteur de la loi pose la bonne question. Et Jésus lui répond à travers ces 2 commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Comme dit saint Jean de la Croix, à la fin de notre vie, quand nous arriverons au ciel, nous serons jugés sur une chose, sur l'amour. Le Seigneur nous demandera « As-tu aimé ? Comment as-tu vécu l'amour de Dieu et du prochain ?» C'est la seule chose sur laquelle nous serons interrogés, sachant qu'il sait très bien comment nous avons vécu. Il ne sera pas là pour nous demander une réponse fausse ou n'importe quoi. Il sait ce que nous avons vécu, il n'est pas là non plus pour nous condamner, mais il nous appelle à vivre l'amour. Mais dans ce commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », cet homme de loi se demande « C'est qui mon prochain ? Qui je dois aimer comme moi-même ? Est-ce que je dois aimer mon voisin comme moi-même ? Est-ce que je dois aimer... qui est mon prochain ? Jusqu'où ça va mon prochain ? Quels sont ceux qui me sont proches, finalement ? Le prochain, c'est ceux qui me sont proches. » Et Jésus répond « Ceux qui se sont proches, c'est ceux dont tu vas te rendre proche. Ton prochain, c'est celui dont tu vas te rendre toi-même proche. » Donc finalement, la question, ce n'est pas de savoir qui est mon prochain, c'est de savoir quelle est ma capacité à me rendre proche des autres. Et pour expliciter cette réponse, eh bien Jésus donne une histoire, raconte une histoire qui est inventée, mais qui aurait très bien pu se passer, de cet homme qui est blessé, roué de coups. Et cet homme blessé, roué de coups en sortant de Jérusalem, eh bien, c'est tous les hommes. Tous, nous avons été plus ou moins roués de coups, pas forcément physiquement, mais soit par d'autres personnes, soit par nous-mêmes, soit par nos propres péchés. On se flagelle avec ces péchés. On se roue de coups. Et nous sommes dépouillés de quoi ? De la gloire de Dieu. Nous sommes dépouillés de quoi ? De la vie éternelle. Cet homme qui était dépouillé par des brigands, c'est une image de ce que nous sommes. Voilà qu'un prêtre passe et il change de côté sur le chemin pour ne pas être trop près de cet homme quand il passe près de lui, pour l'éviter. Un lévite, pareil, c'est-à-dire un serviteur du temple, pareil, il passe et puis il évite cet homme. Il ne veut pas voir la misère de celui qui souffre, alors certainement, ce prêtre, ce lévite, qui peuvent parfois être nous aussi quand on ne veut pas voir la souffrance des autres, ils ont 10 000 raisons pour passer leur chemin. Ils se disent, j'ai beaucoup de choses beaucoup plus importantes à faire, ou si je vais toucher cet homme, je vais être impur, ou si je commence à m'occuper de lui, je ne sais pas où ça va se terminer. On a toujours 10 000 raisons pour ne pas s'occuper de l'autre qui est sur notre chemin. Et puis voilà que c'est un Samaritain. Alors si Jésus prend la figure d'un Samaritain qui s'arrête, c'est qu'entre les Juifs et les Samaritains, c'est la guerre. Les Juifs détestent les Samaritains détestent les Juifs. Donc Jésus prend précisément la figure de quelqu'un qui n'aurait pas dû s'arrêter. Lui, il avait toutes les raisons de ne pas s'arrêter. Parce que celui qui était roué de coups, c'est un ennemi. Donc ce Samaritain, il n'aurait pas dû s'arrêter, finalement. Et finalement, c'est lui qui surmonte la différence, non seulement la différence culturelle entre lui et ce Juif, et même la haine qu'il peut peut-être avoir pour ce Juif, pour s'arrêter auprès de lui et commencer à le soigner. Et on voit qu'il se prend soin de lui très concrètement. Il bande ses plaies, il met de l'huile, il le met sur sa monture, il l'emporte dans un hôtel. À l'époque, il n'y a pas d'hôpitaux, donc le seul endroit où il pouvait l'emmener, c'est dans un hôtel éventuellement, ou une hôtellerie. Et on voit que cette charité de ce Samaritain, c'est une charité incarnée. Ce Samaritain, il prend soin de l'autre dans son corps et il s'implique dans son corps. Et ainsi, le Seigneur nous invite aussi à vivre la charité vis-à-vis des autres de manière concrète, incarnée. Par exemple, faire un sourire, par exemple, écouter quelqu'un qui est dans la souffrance. Quand quelqu'un souffre, on a tous fait cette expérience que quand on souffre, ça nous fait beaucoup de bien de pouvoir parler à quelqu'un, même si la personne qui est en face n'a pas la solution de notre problème, ce qui est généralement le cas. De pouvoir avoir déjà quelqu'un qui nous écoute, une oreille qui nous écoute, ça nous fait déjà beaucoup de bien quand on souffre. Ça soulage beaucoup la souffrance de pouvoir parler. Très souvent, quand on parle les uns avec les autres, on a du mal à écouter. On a envie de raconter nos histoires, mais on a du mal à écouter les autres. Voilà. Donc à travers cette figure du Samaritain, Jésus veut nous inviter à la charité. Et ce Samaritain, c'est d'abord, il représente d'abord Jésus. Parce que celui qui va s'arrêter pour nous soigner, c'est d'abord Jésus. Celui qui ce soir va passer au milieu de nous pour nous soigner, c'est Jésus. Alors on pourrait dire, ben Jésus il est Dieu, donc il a tout pouvoir, donc il fait ce qu'il veut, puis il guérit chacun comme il veut. Oui, sauf que pour nous guérir, il est mort sur la croix. Il a pris nos souffrances, nos péchés sur la croix. Il s'est impliqué dans son corps, dans sa chair. Il est descendu sur terre. Il n'est pas simplement envoyé de son balcon en haut du ciel des grâces sur la terre. Dieu s'est impliqué concrètement. Il a pris un corps humain. Il a souffert. Il est venu nous soigner dans son corps, dans sa chair. Et il en a souffert. Nous aussi, nous sommes invités à prendre soin des autres. Ce Samaritain, donc Jésus, quand il prend cet homme blessé, il le conduit dans une hôtellerie. Et cette hôtellerie, les pères de l'Église ont dit que c'était l'Église. L'Église, dont le pape François nous a dit aussi que c'est comme un hôpital de campagne. L'Église a vocation à être comme un hôpital. Mais pour que l'Église soit un hôpital, il faut que les chrétiens prennent soin les uns des autres. Parce qu'un hôpital, en principe, ce n'est pas juste des murs. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'aides-soignantes. Un hôpital, ce n'est pas juste des appareils, des murs et puis terminé. C'est surtout des personnes qui prennent soin des autres. Évidemment, on a besoin d'instruments. Et dans l'Église, il y a les sacrements, il y a la prière, il y a plein de choses. Donc dans l'Église, on a besoin qu'on prenne soin les uns des autres. Et pour prendre soin de quelqu'un d'autre, eh ben, il ne faut pas attendre d'être guéri. Soi-même, on peut être blessé ou malade et prendre soin de quelqu'un d'autre. Voilà, finalement, à travers cette parabole, Jésus cherche tout simplement à ce qu'on redevienne des êtres humains. Vous savez, le milieu de la ville, milieu citadin, a tendance à déshumaniser. On voit plein de gens dans la rue qui font la quête, on voit plein de gens dans le métro. Donc on se dit, ben, des gens qui souffrent, il y en a des millions, des centaines de milliers, je ne sais pas, il y en a plein dans le monde. Donc si moi je fais quelque chose pour mon voisin, ça ne changera pas la face de la terre. Ben si chacun fait quelque chose pour son voisin, ou si chacun, quand l'Esprit Saint le pousse, va un petit peu plus loin que son voisin et fait un acte de charité, et bien si tout le monde fait pareil, ça changera la face de la terre. Et donc le Seigneur nous demande d'essayer de faire cela, selon la mesure de nos forces. Alors maintenant je vais donner quelques témoignages de guérison. Ce soir je donnerai des témoignages plutôt résumés, c'est-à-dire des personnes qui sont venues faire remonter, notamment au groupe d'écoute ou à travers des mails, les guérisons, les grâces qu'ils ont obtenues à Saint-Nicolas-des-Champs. Donc Sylvie est venue nous dire qu'elle avait depuis longtemps, donc des années, des sinusites et des maux d'estomac. Suite à une parole de connaissance début 2015, donc ça fait déjà plus d'un an, elle n'en a plus eu du tout. Et puis, elle était aussi particulièrement heureuse parce que quand elle est venue à Saint-Nicolas-des-Champs, elle a prié pour son fils qui était très fermé depuis longtemps, qui ne voulait plus parler avec elle. Et le soir même de ce jour où elle est venue prier à Saint-Nicolas-des-Champs, eh bien, l'attitude de son fils a changé et ils ont pu avoir un dialogue ensemble. Vous savez, parfois, guérir les cœurs, c'est plus difficile que de guérir les corps. Parfois, plus difficile de changer un cœur que de guérir un corps. Parce que pour changer un cœur, il faut que chacun y mette un petit peu du sien. Quand on ne veut pas aimer, ben, c'est difficile de changer. Ou quand on est blessé. Marie-Christine avait une mycose rebelle à la langue qui ne partait pas avec les traitements. Cela lui brûlait la langue quand elle mangeait. Donc ça a l'air peu de choses, mais finalement, c'est un véritable supplice. Du coup, comme les traitements ne marchaient pas, elle a arrêté les traitements suite au conseil d'une pharmacienne, mais elle n'avait plus vraiment de solution. Elle est venue à la prière des malades au printemps 2013. Donc, et là, il y a une parole de connaissance qui annonçait la guérison de mycose à la langue. Et Marie-Christine, elle n'a pas osé y croire, parce que comme ça faisait longtemps qu'elle n'arrivait pas à être guérie, elle avait un petit peu désespéré de pouvoir un jour être guérie. Mais ensuite, suite à cette parole, elle a décidé de faire un chemin de foi et elle a dit au Seigneur « Que ta volonté soit faite ». Donc dans un premier temps, elle ne voulait pas y croire, puis après elle s'est dit « Bon, je vais quand même faire un petit effort. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu veux me guérir, ben, j'accepte. Merci Seigneur, je crois que tu peux le faire. » Elle a fait aussi un petit jeûne et sa mycose a disparu en quelques jours. Donc c'est une guérison qui est vraiment authentifiée puisqu'elle est venue plus de 2 ans après nous le dire. Tiphaine a fait une dépression mélancolique qui a commencé après qu'elle ait avorté. Donc ça faisait 1 an qu'elle était en dépression. Sa sœur est venue prier pour elle à la prière des malades en mars 2015. Une parole de connaissance a demandé à une personne qui avait avorté d'aller se confesser. Tiphaine a proposé à sa sœur de faire cette démarche. Et suite à cette confession, la dépression de sa sœur a disparu. Donc le Seigneur, le pardon du Seigneur a aussi guéri sa dépression. Alors, c'est pas automatique, évidemment, mais là, le Seigneur a donné cette grâce particulière pour remercier Tiphaine d'avoir fait cette démarche de réconciliation avec lui. Alors, Maya souffrait depuis plusieurs mois d'hémorragie génitale sans qu'elle ne trouve de solution médicale à son problème. Elle est allée supplier dans une église, pas à Saint-Nicolas, elle est allée supplier le Seigneur, car elle ne trouvait pas de solution à son problème. Et là, quand elle était dans la supplication, le Seigneur lui a donné la paix et lui a assuré qu'il allait la guérir, ce qu'elle a reçu dans son cœur. Donc elle a cru que le Seigneur allait la guérir. Et de fait, elle est venue en mars dernier à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Quelqu'un lui a parlé de cette prière des malades entre-temps, donc elle est venue. Et quand le Saint-Sacrement est passé devant Maya, une parole de connaissance a annoncé la guérison d'une hémorragie génitale et immédiatement son hémorragie a cessé. Voilà, merci Seigneur pour cette guérison. Puis d'autres grâces qui ne sont pas simplement des guérisons. Brigitte est venue à la prière des malades et elle a été touchée par une parole affirmant qu'il ne fallait pas avoir peur d'aller en mission. Or, elle était dans une paroisse où le curé engageait les paroissiens à participer à une mission. Cette paroisse faisait un temps de mission d'évangélisation. Et Brigitte avait très peur de cela. Et grâce à la parole reçue à Saint-Nicolas-des-Champs, elle s'est décidée à participer à cette mission. Et elle a eu la joie de rencontrer une personne dont le cœur s'est ouvert à l'amour de Jésus. Donc, heureusement, Brigitte a fait cette démarche pour faire cette mission sur cette paroisse, parce que grâce à elle, il y a une personne qui s'est convertie en Jésus. Donc, Jésus l'attendait dans cette mission pour convertir le cœur d'une personne. Voilà, ben merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu accordes dans notre assemblée. Nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Nous savons, Jésus, que tu es le bon Samaritain qui vient nous soigner. Tu as donné ta vie pour nous et tu nous confies à cet hôpital qu'est l'Église. Mais dans cet hôpital qu'est l'Église, le véritable médecin, c'est quand même toujours toi. Amen.